France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette année marque le centenaire de la naissance et les 30 ans de la mort de Gilles Deleuze. Pour l'occasion, toute cette semaine, nous ouvrons dans son œuvre un livre sans début ni fin, un livre rhizome écrit à plusieurs avec le psychanalyste Félix Guattari, « Mille plateaux ». Et aujourd'hui, entrons dans les plateaux politiques faits de machines de guerre, de nomades et d'espaces lisses, ou comment penser ce qu'il y a en dehors de l'appareil d'État.
N'importe quel problème un peu saillant, un peu important aujourd'hui, relève à la fois de dimensions internationales qui échappent entièrement aux organismes de décisionnalité dans l'espace national, aux actants politiques visibles, ce qu'on voit sans arrêt à la télé. Et puis, en outre, met en jeu des mutations de la vie quotidienne, de la vie inconsciente, des rapports hommes-femmes, des changements de rapport au travail, des changements de rapport à la culture, au savoir, à la musique, etc. Sauf que les surfaces d'inscription existantes, politiques, masse médiatique, sont absolument incapables d'inscrire ça. Ce fait qu'ils ne voient pas. Ils sont dans le trou complet. Qu'est-ce que peut bien comprendre aujourd'hui des politiciens à la façon dont aujourd'hui les femmes vivent leur rapport à leur espace domestique, à leur espace conjugal? Franchement, sincèrement, je crois à peu près rien. D'où ce trouble parfaitement compréhensible. Je crois que c'est quelque chose qui implique un remaniement complet de la position des hommes, des femmes, dans leur rapport à la société, dans leur rapport à la possibilité pour eux de gérer leur vie personnelle, mais de gérer aussi les problèmes relatifs à l'éducation, relatifs à l'environnement, au voisinage, à la culture, etc.
Bonjour Anna Longo.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directrice de programme au Collège international de philosophie, enseignante à l'Institut Mines Télécom Business School et membre du laboratoire du changement social et politique, le LCSP. Paris Cité, on vous doit sur Deleuze cette monographie. Deleuze, une philosophie de la multiplicité, c'est paru l'année dernière, en 2024, aux éditions Ellipse. Alors, une fois n'est pas coutume, car je reconnais qu'on a fait une série d'émissions sur l'anti-Oedipe, et là, cette série d'émissions sur Mille plateaux, on a plutôt tendance à diffuser des archives de Gilles Deleuze. Mais là, c'était la voix de Félix Guattari dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture en mars 1980, donc quelques mois avant que paraisse Mille plateaux. Est-ce que vous pensez que si Deleuze et Guattari ont écrit « Mille plateaux », la suite de l'anti-Oedipe, c'est justement pour ces raisons politiques que Félix Guattari évoque ici, à savoir une incapacité à pouvoir voir, même comprendre, mais même voir d'abord les problèmes qui traversent les individus.
Oui, bien sûr. Je pense que, en effet, Guattari et Deleuze, ils se sont rencontrés aussi pour faire le deuil du mai 68. Mm. Donc, c'était un peu l'échec, non, de ces mouvements qui les interrogeait, qui les a poussés à se questionner. Et donc aussi, comprendre comment la structure sociale, le capitalisme a été modifié, pour réabsorber un peu, non, ces fuites. Non, représenté par les mouvements. Donc, dans l'Antédipe, bon, c'est assez évident, une tentative d'écrire, de comprendre la situation présente. Et dans Mille plateaux...
Alors, je rappelle, l'Anti-Oedipe, c'est 72, donc on est 4 ans après mai 68, donc vraiment, voilà, dans les leçons tirées de l'échec de mai 68, oui. Mille plateaux, 8 ans plus tard, 1980.
Oui. Et c'est un peu mettre en pratique... c'est qu'ils ont essayé d'élaborer comme réponse philosophique à cet échec et par rapport aussi à la nouvelle situation. Donc dans Mille plateaux, c'est cette philosophie qui s'exprime, non, en tant que créativité par rapport à cette situation présente.
Que s'est-il passé en 8 ans politiquement entre 72 et 80 en France et même ailleurs pour que quand même Guattari et Deleuze se disent bon là vraiment en fait échec total des mouvements sociaux, installation du capitalisme, il faut qu'on réagisse. Pourquoi ils se sont sentis presque obligés de réagir en fait?
Bon, c'est le néolibéralisme, non, qui s'est passé.
Ah bah, tout simplement, alors.
Et donc,
une raison suffisante pour écrire, finalement.
Les néolibéralismes, voilà, c'est une forme de capitalisme où, par exemple, on n'a plus la forme usine, non? On a quelque chose de différent, on a l'entreprise. On a toute une nouvelle déterritorialisation du capitalisme par rapport au capitalisme industriel. Et donc, c'était aussi une manière pour de capturer, si on veut, ces mouvements d'émancipation des mai 68. Donc, pousser les gens à être créatifs, par exemple. Non, il y a tous des discours qui
Donc, il y a une volonté quand même de Deleuze et Guattari de réveiller encore les lecteurs et lectrices qui sont endormis par le néolibéralisme. Il y a cette volonté-là, de réveil, de faire en fait aussi de Mille Plateaux une forme de manuel.
Non, c'est pas un manuel, c'est pas une forme de réveil, c'est juste comment on fait de la philosophie dans cette situation et okay. comment on explique la situation au point de vue philosophique, tout en sachant que on doit aussi, par exemple, réactualiser ou repenser la théorie marxiste par rapport à la nouvelle situation et aussi penser qu'est-ce que c'est la pensée. Dans cette situation. Donc, c'est jamais une idée de dire, bon, ça c'est les biens, ça c'est les mal. C'est juste essayer de comprendre la situation et trouver quelles sont les possibilités pour penser de façon effectivement créatrice.
Quel est l'intérêt, je me fais l'avocat du diable, Anna Longo, de réfléchir à la philosophie dans un contexte politique capitaliste? À quoi ça sert, en fait, de vouloir se demander à quoi sert la pensée dans un univers qui va être moins porté sur des questions philosophiques? Est-ce que la philosophie, c'est une question un peu tarte à la crème, est utile?
C'est pas une question d'utilité de la philosophie.
Là, je crois que vous alliez me dire, c'est pas une question tarte à la crème.
Non, c'est pas une question d'utilité de la philosophie. C'est une question d'expression. C'est une question de arriver à exprimer ses désirs, qui est un désir créatif, non? Parce que selon Deleuze, voilà. Tout est une actualisation du désir. Donc, même le capitalisme est une actualisation du désir. Même le néolibéralisme est du désir. Mais l'idée est que, voilà, il y a une forme dominante du désir, d'expression du désir qui s'impose et qui, d'une certaine façon, empêche aux autres, non, de s'exprimer, de fleurir. Et donc, pour Deleuze, il ne s'agit pas d'avoir une philosophie qui conteste un certain ordre, mais il s'agit plutôt de faire une philosophie comme quelque chose qui va différencier les réels. Donc, c'est pour s'engager dans cette différenciation du réel, donc pour rendre effectivement les désirs productifs. Donc, c'est un désir des philosophies.
Oui, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est la question de l'anti-Œdipe à partir des machines désirantes. Le désir n'est pas fondé sur le manque, mais producteur de réel. La question du désir, elle disparaît pourtant. Dans Mille Plateaux, par exemple, on n'a pas de machines désirantes. On a, et c'est le concept que vous avez choisi de travailler aujourd'hui, Anna Longo, le concept de machine de guerre. Alors, quel est le rapport entre machine désirante et machine de guerre? Où est passée la question du désir? Est-ce qu'il est encore question de désir dans la guerre?
Oui, bien sûr. Je pense que les cadres conceptuels restent plus ou moins les mêmes. C'est qu'ils changent un peu les noms. Les noms des concepts, c'est-à-dire que voilà.
C'est juste un changement, vous pensez nominatif.
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu aussi ajuster un peu tous les plans des concepts, mais ils ont été assez critiqués après l'anti-Œdipe. Et il y avait certains termes, l'utilisation de certains termes qui s'est prêté à des critiques. C'était un peu problématique, dont les termes des désirs. Aussi, les termes de schizophrénie, par exemple, il a disparu parce que, voilà, là, ici, c'était problématique.
Pourquoi c'était problématique, désir et schizophrénie? J'imagine que c'est pour des raisons peut-être médicales, psychiatriques, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de romantisation d'une pathologie mentale qui pouvait poser problème et du coup conduire à des mauvaises interprétations, des mésinterprétations. Mais en ce qui concerne le désir...
Mais les désirs aussi, après, c'était très utilisé d'autres façons. Donc, c'était un terme qui est devenu une sorte de mot d'ordre aussi, non?
Oui. Presque comme une sorte de slogan, c'est
oui,
ça qui
voilà.
l'est dépassé.
Libérer les désirs, voilà, oui. C'est devenu une sorte de slogan. Donc, et c'était plus assez clair, non, pour Deleuze et Guattari, parce qu'ils l'utilisaient d'une façon vraiment spécifique et personnelle. Donc effectivement, la productivité du désir et la productivité de la multiplicité, tout simplement.
Mmh. Et alors, quel rapport entre désir et guerre?
Et
parce qu'il faut commencer par là, Anna Longo, pardon, je vous coupe, mais le 12e plateau notamment de 2000 plateaux auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui ouvre par cette question de la machine de guerre.
Oui.
Et là, entre désir et guerre, voilà, moi j'ai du mal comme ça à voir le lien.
Oui, donc là, c'est pas question de guerre, c'est question des machines de guerre, justement. Et la machine de guerre, elle est une production du désir. C'est-à-dire, c'est tout une actualisation d'une multiplicité. Et cette multiplicité est la multiplicité du désir, donc du plan d'immanence. La machine de guerre est l'une des organisations qui émerge de ces plans d'immanence, de ces plans de désir. Donc, elle est une actualisation. Elle est un agencement particulier, tout en sachant que chaque agencement est une actualisation du désir, c'est une production du désir et ça produit du désir. Voilà, donc dans les termes des mille plateaux, il n'y a pas de désir, mais chaque changement, c'est une multiplicité qui exprime une multiplicité.
Oui, voilà, c'est la question qu'on a évoquée hier avec David Lapoujade, la question de mille plateaux, c'est comment faire une philosophie de la multiplicité. Donc là, la multiplicité, elle prend la forme d'agencement qui serait celui... de la machine de guerre, c'est ça?
Oui, voilà. On a plein de types d'agencements différents. Donc, il y a l'agencement de la machine de guerre. On a aussi l'agencement de l'appareil d'État. Et voilà, Deleuze et Guattari, ils décrivent plusieurs types d'agencements, dont l'agencement de la machine de guerre.
Et pourquoi la machine de guerre, ça les intéresse?
Ça les intéresse parce que effectivement, ils sont en train aussi de se questionner sur la notion d'État. Et donc, normalement, on analyse toujours cette structure d'État, cette organisation sociale, qui est l'organisation de l'État.
Quand on fait de la philopolitique, c'est l'État qui s'impose, oui.
Et donc, la question, est-ce que l'État est le seul type d'agencement social, la seule organisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à l'État? Une organisation sociale qui n'est pas du tout étatique, un peu le dehors de l'État. Et la machine de guerre représente effectivement cet autre de l'État.
Et donc cet autre de l'État, c'est la machine de guerre. Donc, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs et auditrices, la machine de guerre n'appartient pas à l'État, comme on pourrait le penser tout de suite, mais on va y revenir, de l'armée par exemple. C'est pas un État qui fait la guerre. La machine de guerre, c'est un agencement qui existe en dehors de l'État pour Deleuze et Guattari, et ce qui permet même de résister en fait à l'appareil d'État, de s'y opposer.
Donc effectivement, il y a toute une question aussi généalogique. Donc Deleuze tient beaucoup à souligner que la machine de guerre n'est pas quelque chose qui donne origine à l'État plus tard. C'est un agencement social indépendant, complètement indépendant de l'appareil d'État. Et après, il y a des relations, bien sûr, entre la machine de guerre et l'appareil d'État.
C'est ce qu'on va voir durant cet échange, Anna Longo. Et avant d'écouter ce premier texte qui concerne le nomade, voilà, avant, dans l'anti-Oedipe, nous avions la machine désirante et le schizo. Maintenant, dans Mille plateaux, nous avons donc la machine de guerre et le nomade. Le nomade, c'est celui qui va inventer la machine de guerre pour Deleuze et Guattari. Pourquoi ils ont oublié le schizo?
Bon, les schizos, c'est pas oublié, ça fait toujours partie de termes, non, qui sont abandonnés, parce que c'était des termes un peu problématiques, non.
Ouais, ce qu'on a dit, ouais.
Donc voilà. Maintenant, on a la figure du nomade, qui est l'une des figures, non, du devenir. Donc, moi, je pense que la schizophrénie, d'Amile Plateau, est remplacée par ces processus de devenir.
Donc, par le nomade. On va tout de suite écouter, justement, une description de ce nomade auquel Deleuze et Guattari font une place, centrale dans Mille Plateaux.
Le nomade a un territoire. Il suit des trajets coutumiers. Il va d'un point à un autre. Il n'ignore pas les points. Points d'eau, d'habitation, d'assemblée, etc. Mais la question, c'est ce qui est principe ou seulement conséquence dans la vie nomade. En premier lieu, même si les points déterminent les trajets, ils sont strictement subordonnés au trajet qu'ils déterminent, à l'inverse de ce qui se passe chez le sédentaire. Le point d'eau n'est que pour être quitté, et tout point est un relais qui n'existe que comme relais. Un trajet est toujours entre deux points, mais l'entre-deux a pris toute la consistance et jouit d'une autonomie comme d'une direction propre. La vie du nomade est intermezzo. En second lieu, le trajet nomade a beau suivre des pistes ou des chemins coutumiers, il n'a pas la fonction du chemin sédentaire, qui est de distribuer aux hommes un espace fermé, en assignant à chacun sa part et en réglant la communication des parts. Le trajet nomade fait le contraire. Il distribue les hommes, ou les bêtes, dans un espace ouvert, indéfini, non communicant. Il y a donc en troisième lieu une grande différence d'espace. L'espace sédentaire est strié par des murs, des clôtures et des chemins entre les clôtures, tandis que l'espace nomade est lisse, seulement marqué par des traits qui s'effacent et se déplacent avec le trajet.
Extrait de Mille Plateaux de Deleuze et Guattari, paru en 1980, le 15 novembre 1980, un extrait du 12e plateau intitulé 1227 traités de nomadologie. Donc on a là la figure du nomade, on l'a dit, on est passé du schizophrène, du schizo au nomade. Qui est le nomade, Anna Longo? On a entendu certaines caractéristiques, mais c'est qui en fait?
Donc les nomades, ça fait partie de cet agencement particulier qui est la machine de guerre. Donc effectivement, on a des types d'agencements différents. Mm-hmm. Et Deleuze et Guattari s'intéressent, non, à cet agencement nomade, qui est une structure sociale d'une certaine façon, mais c'est une structure sociale très particulière. Parce que effectivement on a d'habitude des structures sociales où on est sédentaire, non. On a des propriétés, l'espace dans lequel on habite,
des maisons, des appartements,
défini,
des rues,
défini comme strié. C'est un espace qui est quadrillé d'une certaine façon, mais pour les nomades c'est pas le cas du tout. Donc il vit dans cet agencement qui se rapporte à cet espace qui est appelé espace lisse. Donc un espace lisse, c'est un peu comme les déserts. Il n'y a pas de repères. C'est un peu comme la mer. N'est pas strié. On ne peut pas les diviser. On ne peut pas les découper. Et donc l'agencement nomade est un agencement qui s'est construit sur ce territoire qu'on appelle l'espace lisse, qui n'est même pas trop un territoire. En tout cas, c'est un espace qui demande une certaine occupation tourbillonnaire. Donc les mouvements
sont très différents. C'est un terme qu'ils emploient, tourbillonnaire. Voilà, le mouvement est tourbillonnaire.
Le mouvement est tourbillonnaire parce qu'effectivement, on ne va pas d'un point à un autre. Donc dans un espace strié, on a des points de repère. Il y a une grille. Et donc on va toujours de point A à un point B. On a des mouvements précis qu'on peut localiser, non, par les coordonnées. Dans l'espace lisse, il n'y a pas du tout de repères. Et donc, c'est un peu un mouvement qui ne va pas d'un point à un autre. mais qui détermine l'espace. Non, c'est les mobiles qui déterminent l'espace en se mouvant, d'une certaine façon.
Mais une question bête, Anna Longo, mais le nomade existe-t-il ?
Et bon, il y a des peuples nomades, bien sûr, qui existent. Après, Deleuze, bien sûr, ils inventent un concept des nomades qui ne correspond pas effectivement aux nomades au sens anthropologique.
Il s'en inspire, hein. Il s'inspire quand même de travaux d'ethnologues, de Pierre Clastre, de Georges Dumézil. Il faut quand même signaler qu'il y a une sorte d'appui, en tout cas de soutien conceptuel de travaux anthropologiques, ethnologiques, philologiques. Mais c'est vrai que cette question du nomade, alors même qu'il y a une dimension politique dans Mille Plateaux, elle interroge parce qu'on se dit, ils ne font que nous parler du réel, ils parlent même du réel avec un grand R, et je n'ai cessé de me demander qui était le nomade. Est-ce qu'il existait ? Est-ce qu'on peut devenir nomade ? Est-ce que nous, là, dans nos villes, dans nos rues, est-ce qu'on peut être nomade ?
Et... Bon, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est la même question de devenir, non ?
Mais je ne sais pas.
Donc, pour Deleuze et Guattari, être nomade, c'est-à-dire actualiser une petite machine de guerre, c'est toujours possible. Et c'est pour cela qu'ils font des exemples dans les arts ou dans la littérature. Donc, par exemple, non, Kafka est décrit comme une petite machine, non? ça serait une petite machine, nomade.
Ouais.
Machine de guerre, une petite machine nomade, machine de guerre, qui ne respecte pas, non, les codes, qui existent déjà, non, codes qui, ne correspondent pas juste, voilà, au quadrillage de l'espace, mais aussi au quadrillage de la pensée, de l'esprit, non? Ou aussi du langage, non? Les catégories du langage qui s'imposent. Donc, inventer, par exemple, une nouvelle langue, une nouvelle façon de s'exprimer.
Oui, c'est ça qu'il parle d'ailleurs de science nomade, c'est-à-dire une science mineure qui s'opposerait à une science officielle. Il parle aussi de penseurs nomades comme Kierkegaard, comme Nietzsche. Donc il y a une manière d'être nomade qui serait pas tant, et ça c'est paradoxal, hein, pas tant dans le rapport à la terre que dans le rapport à la pensée.
C'est plutôt dans les rapports avec l'appareil d'État.
Ok.
Appareil d'État qui est considéré comme ce qui impose une certaine structure à la fois au territoire, mais aussi à la pensée. Donc, pour Deleuze, il y a aussi une pensée d'État, une philosophie d'État, non, qui est une philosophie hiérarchique avec une volonté d'ouvrir une méthode précise, non, qui s'impose comme universelle. Non, il y a un sujet universel, une méthode universelle, et c'est une forme de pensée qui s'impose un peu à tout le monde, non? Et pour eux, un nomadisme dans la pensée, c'est un peu remettre en question non, ces catégories, ces quadrillages de la pensée. C'est pour cela qu'il y a un nomade, parce que la machine nomade, effectivement, elle est dehors de l'État. Et elle est une structure alternative à celle de l'État. Et elle se heurte à l'appareil d'État, non? Avec, au début, au moins, un risque de destruction réciproque. Parce que c'est deux organisations qui sont incompatibles, non?
Donc, on peut, par exemple, faire partie d'un État, voilà, d'un endroit, d'un espace strié, faire uniquement des trajets comme nous en faisons tous les jours, Anna Longo, aller d'un point A à un point B, et pourtant avoir quand même développé une forme de nomadisme et donc une forme d'extériorité à l'État et donc à l'appareil d'État et donc faire être quoi, une forme de résistance. Voilà, il y a quelque chose de politique là, hein, pour Deleuze et Guattari, c'est-à-dire de pouvoir être à même de se mettre en dehors de l'État et peut-être de le confronter.
Oui, c'est pas en dehors total, c'est-à-dire que voilà, on peut jamais vraiment sortir
complètement de la
situation dans laquelle
on va pas aller dans le désert pour nomadiser.
Dans laquelle on est. C'est juste une question de arriver à remettre en question certaines des catégories, certaines des structures, non, qui s'imposent. Donc, par exemple, inventer une langue mineure à l'intérieur de la langue, c'est déjà un certain type, non, des nomadismes. C'est pas une subversion totale, c'est pas la révolution totale, mais c'est juste ouvrir une petite possibilité de devenir, de transformation.
Alors, il y a un autre endroit où Deleuze, là, seul, donne une définition du nomade. C'est dans son abécédaire, quand il le distingue du voyageur.
C'est vrai que j'ai aucune sympathie pour les voyages. Je suis très touché par une phrase admirable, comme toujours, de Beckett, qui fait dire à un de ses personnages à peu près, je cite mal, c'est encore mieux dit que ça, c'est... On est con quand même, mais pas au point de voyager pour le plaisir. Alors ça, cette phrase, elle me paraît parfaitement satisfaisante. Moi, je suis con, mais pas au point de voyager pour le plaisir, ça, non, quand même pas. J'ai toujours été fasciné par les nomades, mais c'est précisément parce que les nomades, c'est des gens qui voyagent pas. Ceux qui voyagent, c'est les émigrants. Il peut y avoir des gens extrêmement respectables qui sont forcés de voyager. Les exilés, les immigrants, ça c'est un champ de voyage alors dont il n'est pas question de se moquer parce que c'est des voyages sacrés, c'est des voyages forcés, c'est des voyages... Mais les nomades, ils voyagent pas, quoi. Les nomades, au contraire, à la lettre, ils restent immobiles. C'est-à-dire, tous les spécialistes des nomades le disent, c'est parce qu'ils veulent pas quitter. C'est parce qu'ils s'accrochent à la terre, c'est parce qu'ils s'accrochent à leur terre. Leur terre devient déserte et ils s'y accrochent. Et ils peuvent que nomadiser dans leur terre. C'est à force de vouloir rester sur leur terre qu'ils nomadisent. Donc, en un sens, on peut dire rien n'est plus immobile qu'un nomade. Rien voyage moins qu'un nomade. C'est parce qu'ils veulent pas partir qu'ils sont nomades. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement persécutés. Bon.
Extrait de l'abécédaire de Gilles Deleuze, produit par Pierre-André Boutan. C'était avec Claire Parnet. Ça a été enregistré en 1988-89. On a pu les découvrir qu'en 1995, à la mort de Gilles Deleuze. Nous étions ici à la lettre V comme voyage. Alors déjà quand même, Anna Longo, on peut quand même dire que Gilles Deleuze est incroyablement drôle quand même. C'est un des rares philosophes qui est drôle, on peut le dire. Vous dites juste oui. Et donc cette différence entre voyageurs, nomades et aussi migrants, dont il est question dans Mille Plateaux, elle est très importante parce que vous avez parlé de la manière dont on peut se faire nomade par la langue, mais il y a quand même un rapport à l'espace qu'on a entendu là, dans cet extrait de l'abécédaire, mais aussi dans le texte, qui est crucial. C'est quoi ce rapport à l'espace? Est-ce que c'est l'espace tel que là, où on est dans ce studio, sur une carte, ou est-ce que c'est un espace qui serait plus métaphorique, un certain rapport à l'occupation d'un territoire?
Et moi, à la base, les références sont des références réelles. Donc, les nomades sont des peuples du désert, non, de la steppe. Donc, c'est un rapport, effectivement, un espace physique, non, un espace réel, où il n'y a pas de repères qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas découper. Après, la différence non, entre les voyageurs et les nomades est que les voyageurs vont d'un point à un autre. Il a un mouvement qui est un mouvement extensif. Donc, il est un point qui bouge et donc il a un trajet précis. Tandis que les nomades ne voyagent pas parce qu'ils ne vont pas d'un point à un autre. C'est une conception de l'espace qui est une conception différente de l'espace.
Une conception intensive?
C'est une conception intensive de l'espace. Ou aussi, on peut penser à la relativité, non? Dans la théorie de la relativité, on a les corps qui module l'espace. Mm-hmm. C'est-à-dire l'espace n'est pas déjà préformé et les corps bougent à l'intérieur d'un espace. C'est plutôt les corps qui modifient l'espace. Mm-hmm.
Je vous suis bien.
Et pour la question des nomades, c'est la même conception de l'espace. C'est pas un mouvement à l'intérieur dans un cadre, dans un système de référence. C'est plutôt les mouvements qui créent l'espace. Mm-hmm. C'est un mouvement intensif. Donc, c'est lié plutôt à la vitesse, non, qu'au mouvement.
D'où la question.
Peut-être aussi très petite.
Mmh. D'où la question, d'où la définition du mouvement comme tourbillonnaire, enfin cette mention d'un mouvement tourbillonnaire. Ce qui fait penser aussi à ce que dit Bergson du temps et de la durée, de cette distinction entre temps et durée. C'est-à-dire que le temps est découpable en minutes, en heures, etc. Alors que la durée, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est l'interpénétration des états de conscience, voilà, c'est diffus, il n'y a pas de repères. L'espace chez Deleuze, qui a suivi, qui a eu des cours sur Bergson, est-ce que c'est ça aussi ? C'est-à-dire un espace qui n'est pas découpé en frontières, en délimitations, qui n'est pas strié, que ce soit par des rues ou par des organes du pouvoir, est-ce que c'est un espace qui est de l'ordre de l'interpénétration, j'ai réussi à le dire, des états de conscience de ceux qui le traversent ?
C'est inspiré bien sûr de Bergson, des multiplicités de Bergson. C'est la critique du mouvement qui fait Bergson. Mmh. C'est-à-dire que Bergson dit la physique n'arrive à comprendre les mouvements que comme les déplacements d'un objet d'un point à un autre.
Dans le temps et dans l'espace.
Dans l'espace. Mm. Et le temps est juste là, c'est juste quelque chose qui est impliqué, non, dans ces mouvements. Donc on mesure les mouvements par le temps. Mm-hmm. Donc le temps est la mesure du mouvement. C'est pas un premier, c'est un dérivé. Mm-hmm. Et Bergson essaye effectivement de comprendre les mouvements en tant que devenir. Donc il dit la physique comprend les mouvements juste comme aller d'un point A à un point B, et donc c'est un mouvement qui est spatialisé. Donc c'est une vision spatialisée. L'idée c'est celle, non, de comprendre les mouvements autrement que comme les déplacements d'un point à un autre, non ?
Donc là, c'est un mouvement immobile. Ce qui semble paradoxal quand on l'entend, mais c'est ce que développent Deleuze et Guattari.
Oui, l'idée, c'est que, effectivement, rien. On peut dire que rien n'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on peut aller à la limite. Mm. La limite qui est infiniment petite. Donc, quand quelque chose arrête de bouger, quoi. Il n'y a pas de limite à la petitesse du mouvement et après ça peut s'accroître, non, jusqu'à une vitesse énorme, mais effectivement tout est mouvement, tout est devenir, non.
Ce qui veut dire qu'on peut rester faire du surplace et être dans le devenir, Anna Longo. C'est-à-dire que c'est pas un rapport de comme on n'arrêtait pas de le dire, le mouvement n'est pas forcément un déplacement. Il s'agit pas en fait de s'agiter d'une certaine manière. Il s'agit plutôt quoi, d'avoir une certaine disposition d'esprit, c'est-à-dire de d'être dans. Est-ce que le devenir en fait on le subit ou est-ce qu'on le décide?
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre.
Est-ce qu'on peut décider d'être nomade, de nomadiser?
On peut décider. Après, c'est le mettre en pratique qui est assez compliqué.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc effectivement, c'est aussi beaucoup de disciplines, non? Mm-hmm. C'est toute la question des lignes de fuite, non? Selon Deleuze et Guattari, non? Tous ces mouvements de devenir qui sont aussi des mouvements qui sont très dangereux. Mm-hmm. C'est-à-dire que effectivement, c'est l'intégrité, non? De la personne qui est mise en danger dans ces devenirs. Donc, faut de la discipline, quoi. Il faut y aller. Tranquillement, doucement.
Pour l'instant, là, dans ce qu'on a entendu et lu du nomade, il n'y a pas de dimension guerrière. On n'a pas reconvoqué, en tout cas, cette notion de machine de guerre. Pourtant, la machine de guerre, c'est l'invention nomade. On a entendu, juste à la fin, pourtant, de l'extrait de l'abécédaire, cette idée de persécution du nomade. À quel moment, en fait, le nomade est une machine de guerre guerrière?
Donc, les problèmes et les rencontres entre l'appareil d'État et la machine de guerre nomade. Donc, les nomades ne respectent pas ce qui sont les frontières des États. Donc, une fois qu'il rentre nous dans un état, à l'intérieur des frontières d'un état, c'est la guerre. Non, parce qu'ils sont effectivement repoussés et ils traitent la propriété de l'État comme si c'était de la steppe, du désert, donc propriété des personnes, non. Donc effectivement là on a une guerre, on a des racis, on a toute la violence aussi de cette rencontre entre la machine de guerre et l'appareil d'État. Donc effectivement pour les États, les nomades sont un problème. Donc, dans les passés, les empires ont souvent été détruits par ces ordres des nomades qui arrivaient, comme l'Empire romain, voilà. Et donc, c'est à ces moments-là qu'on trouve que les nomades deviennent aussi des machines de guerre. Parce que, ils rencontrent l'appareil d'État. Et ensuite, toute la question pour transformer une machine de guerre nomade dans une armée, il y a toute une technique d'État. L'État est défini par Deleuze et Guattari comme appareil de capture, en tant qu'il capture cette machine de guerre nomade pour en faire son armée. Donc, effectivement, il utilise la machine de guerre nomade contre les machines de guerre nomades.
Donc il y a un retournement, presque une récupération de la machine de guerre.
Il y a une récupération de la machine de guerre qui maintenant, elle est tournée contre les ennemis de l'État, donc contre d'autres machines nomades. Et elle subit aussi une transformation radicale, donc elle est capturée. Elle est aussi soumise à ce qui sont les lois de l'État. Bon, avec des compromis, toujours de la méfiance réciproque, des dangers réciproques, etc.
Anna Longo, on va écouter un texte qui suit exactement ce que vous venez de décrire, à savoir cette rencontre entre la machine de guerre et l'État, et puis ce que ça fait, qu'est-ce qui sort de cette rencontre. Mais juste un mot avant, la manière dont vous décrivez ça, en fait, vous décrivez la situation d'opposants politiques, par exemple. C'est-à-dire des gens qui seraient opposés à une manière de dire, de faire, d'organiser la société, qui s'opposeraient et qui rencontreraient l'État dans sa puissance, et donc opposition et récupération et soumission de ses opposants politiques. On a presque l'impression en fait que Deleuze et Guattari métaphorisent ou en tout cas allégorisent cette situation-là.
Oui, on peut aussi les voir comme ça aussi dans toute la récupération des mouvements artistiques, par exemple, non, qui sont des petites machines de guerre. Il y a cette façon de capturer et de faire une sorte d'armée.
C'est vrai.
1. La machine de guerre est l'invention nomade qui n'a même pas la guerre pour objet premier, mais comme objectif second, supplémentaire ou synthétique, au sens où elle est déterminée à détruire la forme État et la forme ville auxquelles elle se heurte. 2. Quand l'État s'approprie la machine de guerre, celle-ci change évidemment de nature et de fonction, puisqu'elle est alors dirigée contre les nomades et tous les destructeurs d'État, ou bien exprime des relations entre États en tant qu'un État prétend seulement en détruire un autre ou lui imposer ses buts. 3. Mais justement, c'est quand la machine de guerre est ainsi appropriée par l'État qu'elle tend à prendre la guerre pour objet direct et premier, pour objet analytique, et que la guerre tend à prendre la bataille pour objet. Bref, c'est en même temps que l'appareil d'État s'approprie une machine de guerre que la machine de guerre prend la guerre pour objet, et que la guerre devient subordonnée au but de l'État.
France Culture, avec Philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Encore une fois du 12e plateau, 2000 plateaux de Deleuze et Guattari, lu par Nicolas Berger. Ce livre paru en 1980 nous permet de penser tout ce qu'il y a en dehors de l'appareil d'État, dont le nomade et dont la machine de guerre. Chaque nomade est comme une petite machine de guerre. Les nomades forment des multiplicités, on pourrait dire des machines de guerre, qui vont en fait rencontrer, s'opposer à l'appareil d'État. Sauf que la machine de guerre qui n'a pas la guerre pour premier objet, qui a juste... Quoi d'ailleurs comme premier objet, Nalongo ? C'est quoi l'objet de la machine de guerre ?
Et l'objet de la machine de guerre, elle n'a pas d'objectif. Elle s'agit d'un agencement qui se développe.
Qui vit
à son propre devenir. Son propre...
Mais qui ne veut pas rentrer, en tout cas, dans la structure de l'appareil d'État.
C'est un agencement qui d'une certaine façon, elle est dehors de la machine d'État et effectivement, il n'a pas pour objectif de devenir un État.
Non.
Donc c'est une alternative, c'est une autre conception.
Une conjuration de l'État. Deleuze et Guattari parlent de la machine de guerre comme d'une conjuration de l'État. Donc il y a presque une forme quand même de rejet. Alors c'est pas forcément quelque chose de conscient, c'est pas forcément, parce que j'ai parlé d'opposants politiques juste avant, mais les opposants politiques ont un programme, ont des désirs, ont des envies qu'ils affichent, qu'ils conceptualisent, qu'ils conscientisent, qu'ils disent. Là, on peut être une machine de guerre sans se dire qu'on s'oppose, mais c'est juste qu'on veut échapper, qu'on a un autre devenir.
Oui, on a une autre forme d'agencement. Et bien sûr, voilà, il y a des analyses historiques de populations nomades ou dites aussi primitives. Effectivement, on se rend compte que ces sociétés ne veulent pas devenir des États, n'ont pas l'envie de devenir des sociétés étatiques. Donc, il y a toutes des mesures qui sont prises pour éviter de se transformer dans des appareils d'État. Et normalement, voilà, dans les appareils d'État, c'est des institutions, non, qui deviennent transhistoriques. C'est pas une question de chef, non, qui occupe toujours les mêmes places. C'est les places qui sont toujours les mêmes. Dans une organisation nomade, c'est pas le cas. Donc, il y a bien sûr des surtout du pouvoir. Il y a une organisation, mais c'est pas une organisation qui passe par des institutions précises. Donc il y a dans ces sociétés une tentative de garder cette forme. Cette forme d'organisation, ces types d'agencement.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, Anna Longo, parce que Deleuze et Guattari posent la question, est-ce qu'il y a un en dehors de l'État ? Est-ce qu'il y a autre chose que l'État ? Mais est-ce qu'aussi on peut penser une formation de multiplicité, un corps social et politique qui ne prenne pas la forme de l'État ? Et ça, c'est une question qui apparaît presque en creux tout le long de ce 12e et de ce 13e plateau. Est-ce qu'ils y répondent ?
Et oui, bien sûr, pour eux, effectivement, mais ils analysent ces deux types d'agencement qui sont l'agencement de l'État et l'agencement de la machine de guerre, tout en sachant que les deux formes pures n'existent pas. Les deux formes
pures. C'est une manière
idéales,
de conceptualiser.
N'existent pas, ces deux formes déconceptualisées, et dans la réalité, on a toujours des mélanges, bien sûr. Donc on a des formes de polarités, non? Toutes des sociétés nomades aussi très différentes entre elles, des formes d'État qui sont très différentes. C'est qu'il observe qu'effectivement les deux polarités sont toujours présentes en même temps. Donc aussi aujourd'hui dans des sociétés qu'on peut penser où on a la domination de l'État, effectivement il y a toujours des petits mouvements du type machine de guerre qui émergent à l'intérieur des États.
Alors ça, c'est une question vraiment importante qui est soulevée dès ce texte qu'on a entendu, c'est-à-dire que là, dans ce que nous décrivent de manière conceptuelle Deleuze et Guattari, on a une machine de guerre qui rencontre un État et donc il y a la guerre, il y a une absorption de la machine de guerre par l'État qui en fait va se réapproprier ses forces, va les récupérer. Mais une fois que la guerre devient l'objet premier du coup de la machine de guerre réappropriée par l'État, est-ce qu'il y a moyen encore de résister ? Est-ce que la machine de guerre devient juste une armée ? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Deleuze et Guattari ne cessent de dire « et d'ailleurs, les États se méfient de leur armée ». C'est vrai qu'on peut penser à des coups d'État militaires, par exemple. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, cette machine de guerre, elle peut continuer à être dans le devenir, à créer des lignes de fuite, des transformations? Est-ce qu'en fait, on peut, voilà, du dedans, s'échapper quand même, voilà, faire résistance à l'appareil d'État, si tout est mélangé?
Bon, donc, dans les cas de la machine de guerre qui devient l'armée d'un État, normalement, si tout se passe bien pour l'État, l'État a son armée. Mm-hmm. Donc, il a encadré la machine de guerre, il a encadré les nomades, normalement, voilà, pour s'assurer la fidélité de cette machine de guerre. Normalement, il y a une distribution des terres. Donc, transformer les nomades en sédentaires.
Les discipliner.
Voilà, aussi, toute la question, voilà, de la structure, non, de la division de l'armée. Voilà, toute une discipline qui vient à s'imposer à la machine de guerre nomade qui devient une partie, non, de la machine étatique et donc prend, dans ces cas, la guerre comme objet. C'est-à-dire que l'État donne l'objectif à la machine de guerre.
La machine de guerre devient une vraie machine de guerre.
Devient une vraie machine de guerre. La question est que des agencements du type machine de guerre peuvent toujours réémerger à l'intérieur de l'espace trié de l'État. Donc, il y a des réémergences, par exemple, les mouvements un peu révolutionnaires, non? C'est toutes des petites machines de guerre non, qui émergent à l'intérieur des États, avec suscitant des réactions, bien sûr, de la part des États, normalement la répression, ou la capture, la transformation, la discipline, non, qui vient s'imposer à ces mouvements, etc. En tout cas, voilà, c'est toujours dangereux pour les deux.
On va écouter un dernier texte, Anna Longo, justement, c'est un texte dans lequel Deleuze et Guattari analysent la situation actuelle, donc actuelle, c'est-à-dire de la fin des années 70, début 80. On a parlé du néolibéralisme, voilà, c'est le gros changement des années 70, comme vous l'avez dit. Et là, il parle de la machine de guerre capitaliste.
Il faut suivre le mouvement réel à l'issue duquel les États, s'étant appropriés une machine de guerre et l'ayant appropriée à leur but, redonne une machine de guerre qui se charge du but, s'approprie les États et assume de plus en plus de fonctions politiques. Sans doute, la situation actuelle est-elle désespérante. On a vu la machine de guerre mondiale se constituer de plus en plus fort, comme dans un récit de science-fiction. On l'a vu s'assigner comme objectif une paix peut-être encore plus terrifiante que la mort fasciste. On l'a vu maintenir ou susciter les plus terribles guerres locales comme ses propres partis. On l'a vu fixer un nouveau type d'ennemi, qui n'était plus un autre État, ni même un autre régime, mais l'ennemi quelconque. On l'a vu dresser ses éléments de contre-guérilla, tels qu'elle peut se laisser surprendre une fois, pas deux. Cependant, les conditions mêmes de la machine de guerre d'État ou de monde, c'est-à-dire le capital constant, ressources et matériels, et le capital variable humain, ne cessent de recréer des possibilités de riposte inattendues, d'initiatives imprévues, qui déterminent des machines mutantes, minoritaires, populaires, révolutionnaires. En témoigne la définition de l'ennemi quelconque, multiforme, manœuvrier et omniprésent, d'ordre économique, subversif, politique, moral, etc., l'inassignable saboteur matériel ou déserteur humain aux formes les plus diverses.
Il ne faut pas l'oublier, le sous-titre de « Mille plateaux comme de l'anti-Oedipe », c'est « Capitalisme et schizophrénie ». Ici, Deleuze et Guattari parlent de la situation actuelle désespérante. Ce texte est incroyable, Anna Longo, parce qu'il décrit une situation qui, 45 ans plus tard, alors à l'échelle de l'histoire, c'est vrai que c'est tout petit, mais on peut quand même mesurer 45 ans, est exactement la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça donne une machine de guerre capitaliste?
Et donc, donc Deleuze et Guattari décrivent effectivement les capitalismes comme une machine de guerre, en sachant que ça dérive aussi d'une transformation des États, donc ça, notamment de ce qui est les concepts de guerre totale. Donc normalement, voilà, l'État a son armée, et il l'utilise contre les ennemis lorsqu'il y a des problèmes. Mais l'objectif de l'État, c'est pas la guerre du tout. Non, l'objectif de l'État, c'est défendre ses frontières. Mais il y a notamment dans les États fascistes cette transformation du but de l'État qui devient la guerre elle-même. Donc l'État se donne la guerre comme but, et donc l'État, d'une certaine façon, devient lui-même une sorte de machine de guerre. Parce que effectivement, c'est une guerre qui n'a pas d'objectif, mais qui désire juste occuper tout l'espace possible.
Comme un empire, en fait, comme une guerre, comme la conquête, en fait.
Occuper le monde comme si c'était un espace lisse. Les capitalismes, c'est un peu la même chose. Donc pour les capitalismes, il n'y a pas un objectif spécifique. La machine de guerre capitaliste n'a pas l'objectif de défendre non certaines frontières, mais d'éliminer les frontières. Donc l'époque où Deleuze et Guattari écrivent, c'est aussi l'époque de la mondialisation. Donc c'est capitalisme non qui occupe les mondes entiers et qui transforme les mondes dans un espace lisse qui est occupé. Dans cette formation, les États ne sont plus ceux qui gèrent la machine de guerre, mais c'est plutôt des structures que la machine de guerre utilise, la machine de guerre capitaliste utilise pour ses propres fins. C'est-à-dire qu'on a besoin, voilà, des structures de production, d'organisation du travail, d'organisation de la société pour garantir les fonctionnements économiques du marché. Donc ils disent qu'effectivement, par rapport à cette machine des guerres globales capitalistes, les États sont des actualisations. Notamment, ce sont des actualisations de l'axiomatique capitaliste. Donc, il y a différentes formes d'État, et ces formes d'État surgissent comme des organisations, parfois très différentes entre elles, qui sont utiles au point de vue du commerce mondial, de la production à niveau global, de la gestion des flux monétaires, des marchandises, etc.
Mais qui, là, en fait, la guerre n'apparaît pas, il parle de paix terrifiante, il n'y a plus d'ennemis, c'est des ennemis quelconques, et quand même, il y a cette lueur d'espoir à la fin du texte, et en quelques secondes sur ce point-là, Anna Longo, voilà, il parle quand même du saboteur matériel, du déserteur humain, qui en fait peut ressurgir. Voilà la machine de guerre qui finalement peut naître d'une machine de guerre capitaliste.
Oui, voilà. Donc, il y a toujours ces mouvements du type machine de guerre qui peuvent émerger à l'intérieur de l'organisation. Et voilà. Donc, c'est les petits espoirs, non ? Voilà. Et sont aussi les ennemis quelconques, d'une certaine façon.
Yeah.
Merci beaucoup Anna Longo. De vous, on peut lire Deleuze, une philosophie de la multiplicité parue aux éditions Ellipse, le jeu de l'induction disponible aux éditions Mimesis. Et pour lire Mille plateaux tout en écoutant War Machine de ACDC, de Deleuze donc et Guattari, Mille plateaux de Deleuze et Guattari, c'est disponible aux éditions de minuit. Il est 10h54, passé de 30 secondes, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Borms.
Comment penser la souveraineté sans souverain ? Nous faisons aujourd'hui un usage bien précis, implicitement rigoureux, de cette étrange notion de souveraineté. Nous pensons en effet qu'un État a la souveraineté sur un territoire, sur l'exercice du pouvoir sur un territoire et sur les citoyens qui le composent, sans pour autant admettre l'existence d'un souverain individuel. Pourtant, traditionnellement et encore dans notre imaginaire, la notion de souveraineté est attachée à une personne. L'exclusivité du pouvoir, l'existence d'un pouvoir qui s'impose à tout le monde, semble se manifester par son attribution à un sujet singulier, par le souverain, le roi, le monarque, qui est investi d'une autorité suprême, suprême voulant justement dire supérieure, le suzerain, celui qui domine les autres par la force et qui est investi aussi d'une source transcendante de légitimité dans les théories théologico-politiques de la souveraineté, qui justement l'incarne dans un souverain, le souverain pontife lui-même, même s'il est sous l'autorité de Dieu, et justement parce qu'il obéit à une souveraineté encore supérieure, est investi d'une souveraineté sur les autres membres de son institution, en tout cas de ceux qui le reconnaissent comme autorité, comme souveraineté spirituelle. Ainsi, il y a paradoxe à désincarner la souveraineté. C'est pourtant le problème fondamental de la théorie moderne du politique. Dans les théories du contrat social, chez Hobbes et même chez Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, la théorie du souverain pose alors des problèmes fondamentaux. Rousseau est sûrement celui qui a essayé de penser le plus rigoureusement la souveraineté, le paradoxe de la souveraineté sans souverain, d'une souveraineté collective constituée par des individus qui décident de déléguer leur liberté à une volonté générale, à une souveraineté reconnue par eux individuellement, mais à laquelle pourtant ensuite, une fois constituée, pour éviter la guerre, pour éviter l'esclavage, pour éviter la domination des uns par les autres, cette souveraineté de tous doit être incarné de manière individuelle. Et Rousseau, au chapitre 7 du contrat social, intitulé « Du souverain », se pose cette formule de l'unité du corps social, de l'unité de la volonté générale et de la loi. Et même chez Rousseau qui pourtant est un critique de la tyrannie, un critique de l'incarnation abusive du contrat social dans une autorité individuelle qui redevient tyrannique, le corps social chez lui redevient en effet un souverain, un et indivisible, dont la volonté s'impose absolument à tous les individus, de telle sorte que on doit obéir au souverain de manière radicale. Le souverain peut, selon une formule célèbre de ce chapitre, nous contraindre par tous les corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on nous forcera à être libre, qu'on nous forcera à être libre, car telle est la condition de la reconnaissance d'un pouvoir souverain. La question d'une souveraineté sans souverain reste entière. Reconnaître une autorité absolue, sans l'attribuer à tel ou tel individu de manière arbitraire, sans l'attribuer même au corps social pensé comme individuel, c'est le problème de la démocratie. Le partage de la souveraineté, ça critique aussi entre différentes instances la théorie des divers pouvoirs qui s'opposait déjà chez Montesquieu à ce qui allait venir chez Rousseau. Aujourd'hui, l'équilibre d'une souveraineté qui assure l'unité d'un territoire et qui, en même temps, reconnaît la souveraineté des individus sur leur propre corps, ou bien des limites à la souveraineté dans le domaine international et interhumain, notamment pour préserver la planète, mais pas seulement, tel est le problème qui revient aujourd'hui.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire et Nassim El Kabli, à la réalisation Louise André, à la prise de son Jean-Guilain Meige. Pour retrouver toutes les émissions, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.